Bonjour, vous écoutez Radio FM Plus 91 FM. Nous voici au troisième épisode de la série des Fils du Fer consacrée aux personnes et métiers au sein de l'Opéra et Orchestre National de Montpellier. Après l'entretien avec Toruo Suzuki, régisseur général de l'Opéra, et celui de Jérôme Pilleman, directeur artistique d'Opéra Junior, nous voici de retour pour un entretien avec Karine Joly, qui est donc au micro du Fil du Fer. Bonjour Karine.
Bonjour Lionel Navarro.
Vous êtes directrice de production à l'Opéra et Orchestre National de Montpellier. Diriger et produire, qu'est-ce que cela signifie dans votre métier ? Dirigez-vous une équipe et de quelle production parle-t-on ?
La production à l'Opéra de Montpellier, l'Opéra et Orchestre de Montpellier, ce sont des productions artistiques. Ça va d'un opéra en grand format, comme on va avoir à la rentrée, par exemple, avec La Force du Destin, où on a un orchestre de 90 musiciens, un chœur de 55 chanteurs, une douzaine de solistes, et un opéra grand format, à des récitals avec un ou plusieurs musiciens, en passant par des formes intermédiaires. Donc vraiment, la production, c'est la production artistique. C'est vraiment le cœur de l'opéra-orchestre de Montpellier. La production, ça a aussi un autre sens qui est de produire, c'est-à-dire créer un spectacle, l'assembler de bout en bout, parce qu'on peut avoir des concerts qui arrivent déjà tout près, avec des artistes qui arrivent, qui ont répété à l'extérieur et qui arrivent avec un programme déjà constitué. Mais sinon, dans la plupart des cas, nous produisons, c'est-à-dire nous répétons, nous montons à l'intégralité des concerts ou des productions sur site. Voilà, ça c'est le sens de production. Et après, pour ce qui est de diriger, alors on va dire que c'est un poste qui a comme intitulé de direction, parce que une fois que Valérie Chevalier a donné sa ligne artistique, sa ligne éditoriale, en fait, il faut ce poste-là est chargé de la mise en place au travers de deux piliers qui sont le planning et le budget. C'est vraiment les deux piliers qui permettent de construire la saison. Et ensuite, justement, ce poste donne la direction et répartit entre les différents services pour mettre en place la production, la saison dessinée par Valérie Chevalier.
Quels sont vos diplômes, Karine, et vous ont-ils été utiles pour votre poste actuel ?
Alors, on va faire chronologiquement un peu. Donc, j'ai fait au lycée, j'ai eu un baccalauréat A3 musique, à l'époque où c'était des A3, donc c'était lettres et musique. Et ensuite, je me suis dirigée vers la Sorbonne pour un cursus de musicologie. Donc, je suis allée un petit peu laborieusement jusqu'à ce qui s'appelait à l'époque la licence, deux ans de DUG et un an de licence qui se sont transformés en fait en cinq ans. Voilà, parce que je travaillais en parallèle pour payer mes études. Ensuite, une fois que j'ai eu ma licence, je me suis vraiment consacrée qu'au chant. J'ai voulu me consacrer qu'au chant. Et puis, je vous le raconterai un peu plus tard, j'ai bifurqué. Ça a nécessité pour moi de reprendre le chemin des bancs de la fac un peu plus tard. Voilà.
Dans l'organigramme de l'équipe, trouvable en ligne sur le site de l'ONM, vous apparaissez dans la colonne « Services artistiques au pluriel ». Dans cette même colonne se lit le nom de Toruo Suzuki, régisseur général de l'opéra, qui est venu parler au Fil du Fer. Karine, en quoi la direction de production a-t-elle partie liée avec l'artistique ?
À l'artistique, c'est vraiment le cœur de la production. Et je travaille avec tous les services artistiques, c'est-à-dire aussi bien l'opéra, qui est vraiment mon premier, c'est vraiment mon cœur d'ouvrage. Mais après, je travaille aussi bien avec l'artistique orchestre, l'artistique opéra junior, qui sont, on va dire, les trois gros pôles. Et après, tout en fait est lié à l'artistique. Tous les postes, le poste de Federica ici présente, est aussi lié à l'artistique, donc à la communication. Mais même, on va dire, même la technique, c'est artistique, puisque c'est à destination de la création d'un spectacle. Donc, tout, en fait, est artistique. Après, ça peut prendre des formes un peu différentes, mais tout, c'est vraiment ce qui motive, c'est notre raison d'être, en fait.
Est-ce que vous pourriez donner une définition de ce qui est artistique pour vous? Qu'est-ce que c'est que l'art que vous servez à l'opéra et orchestre de Montpellier? Donc le chant, l'opéra, le symphonique?
Alors pour les concerts, là on va dire qu'on va être sur des interprètes, donc aussi bien nos musiciens, les musiciens de l'orchestre de Montpellier, le chef d'orchestre, on est sur des interprètes. Après, quand on est sur du spectacle vivant scénique, là, on est sur du visuel. Aussi bien le chef d'orchestre, les musiciens, les chanteurs sont vraiment sur de l'interprétation, on va dire, auditive. Après, pour la partie qui m'est plus spécifique, on touche au scénique. Donc là, s'ajoute une vision. Au sens à la fois artistique et visuel d'un artiste, d'un metteur en scène, de son équipe. Ce qui donne justement une vision à chaque fois renouvelée. C'est en ça que je vous disais que je m'ennuie jamais. Depuis bientôt un quart de siècle que je fais ce métier, je m'y ennuie pas parce que chaque artiste ou équipe artistique se présentant, voilà, on aborde un autre univers, une autre sensibilité, une autre vision. Donc ça, voilà, par exemple, dans Péléas, on peut en avoir trois productions différentes et du coup trois visions différentes qui interrogent sur ce que cette œuvre veut dire, qu'elle peut pouvoir dire. Et voilà, ça ouvre un regard nouveau sur une œuvre qu'on peut connaître. Donc voilà, c'est en ça qu'on fréquente l'artistique au quotidien.
Donc c'est du perpétuel renouvellement, l'art, si je vous comprends bien. Est-ce tôt dans votre vie que vous avez su que vous vouliez accomplir le métier qui est le vôtre aujourd'hui de directrice de production?
Alors pas du tout. Parce que directrice de production, c'est un métier, quand on est en cursus scolaire, on ne connaît pas du tout ces métiers, surtout à l'époque où j'étais sur les bancs de l'école. Voilà, c'était des, y avait pas encore de cursus universitaire dédié à ce métier. Donc non, on va dire, alors, le premier métier que j'aurais voulu faire, quand j'étais au collège, je voulais être égyptologue. Et puis j'ai été un petit peu démotivée par des arguments parentaux. Donc bon, j'ai laissé l'Égypte ancienne de côté. Et puis, alors je détestais l'opéra. On en écoutait à la maison, mais je détestais ça. Et un jour, je suis allée à un concert où il y avait une chanteuse lyrique qui s'appelle Anne Louvers. Et là, ça a été le coup de foudre. Et là, je me suis dit, c'est ça, c'est ce que je veux faire. Voilà, alors, comment je suis arrivée, je vous raconte un petit peu comment je suis arrivée à la direction de production.
Avant ça, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est que ce coup de foudre, si vous pouviez en parler, le définir, ce coup de foudre professionnel, artistique, voilà.
Ah oui, alors, c'était... Alors, je ne peux pas dire un coup de foudre professionnel, puisque je devais avoir 15 ans, donc ce n'était pas à ce niveau-là. C'était vraiment... je pense que déjà, c'était sensoriel, parce que quand vous avez... on le fait avec les tout jeunes enfants, on fait des expériences, des concerts avec des tout jeunes. Quand vous vous trouvez près d'un chanteur d'opéra, déjà il faut savoir qu'un chanteur, il y a différentes classifications, mais il peut mettre en moyenne, donc vous connaissez la mesure par rapport au micro, 100 dB. Donc déjà, il y a une puissance qui est très impressionnante et qui se manifeste vraiment par des sensations physiques. Donc déjà, je pense que ça m'a vraiment impressionnée, cette sensation. Et puis, l'émotion qui se dégageait de l'interprétation de cette chanteuse. Peut-être c'était aussi le fait de l'entendre en vrai, de la voir en chair et en os, et pas juste en enregistrement. Donc voilà, c'est une puissance sensorielle et émotionnelle. Voilà, et je me suis dit, je vais faire ça. Voilà.
Et vous avez donc tout fait pour pouvoir le devenir.
Alors j'ai vraiment tout fait.
Et alors pourriez-vous en parler de ce tout fait jusqu'à aujourd'hui ?
Alors oui, qu'est-ce qui fait que je suis arrivée jusque-là alors que je n'étais pas partie dans cette direction ? Donc l'année d'après, je me suis inscrite au conservatoire. Et puis, la personne justement que j'avais entendue en concert, qui est devenue mon professeur, a très tôt décelé des nodules. Donc déjà, je ne partais pas bien. Des nodules, c'est comme des kystes sur les cordes vocales, donc c'est quand même un problème. Voilà, c'est une maladie des cordes vocales. Donc voilà, donc déjà dès le début, c'était un petit peu fastidieux. Ça, plutôt, les cours de chant ressemblaient plus à des cours de rééducation orthophonique qu'à des cours de chant. Donc voilà, c'était. J'ai poursuivi longtemps, pendant 15 ans, les cours de chant. C'était vraiment une passion, quelque chose dans lequel je baignais tout le temps, pour lequel j'investissais tout l'argent que je pouvais gagner en travaillant à côté de mes études. Alors après, il y a deux choses qui ont fait que j'ai rencontré une autre voix, O-I-E, à défaut de O-X. C'est que déjà, sans fausse modestie, je n'étais pas douée spécialement pour le chant. Alors quand on sait que c'est un métier qui est déjà très difficile, même quand on a des dispositions très très favorables. Donc déjà, voilà, j'étais pas très douée. Et puis aussi autre chose qui est quand même assez handicapant, c'est que j'avais vraiment un trac qui était inhibant, qui me faisait vraiment perdre mes moyens. Donc c'était assez problématique. Ça m'est arrivé, mon souvenir le plus horrible, je chantais en duo avec une soprano, un duo de Mendelssohn. Et pendant que je chantais, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là ? C'est horrible. Donc vraiment, j'étais pas bien. En ensemble vocal, quand on était à partir d'une douzaine, ça allait, mais seul ou en quasi solo, c'était pas pour moi du tout. Voilà. Et voilà, vers fin de vingtaine, je suis rentrée dans un ensemble vocal en tant que mezzo. Donc là, les concerts en ensemble vocal, ça allait. On abordait plein de répertoires très très intéressants. Et puis le chef de chœur a cherché à un moment quelqu'un qui s'occupe un petit peu à ses côtés. Il en avait marre de s'occuper d'administration. Donc il a cherché quelqu'un qui s'occupe de ce volet-là de son ensemble. Et c'est là que j'ai bifurqué et où je me suis sentie là à ma place. Alors que, voilà, c'est vrai que quand j'ai senti que je devais amorcer un petit peu un tournant, comme je vous en avais parlé, j'avais rencontré un agent qui m'avait dit, à votre âge, si vous n'avez pas commencé à percer, il va peut-être falloir songer à envisager un tournant professionnel. Et c'est vrai que je l'avais quand même très très mal vécu, parce que voilà, cette passion chevillée au corps, tout ce temps, cette énergie, cet argent investi, parce que c'est vrai que quand on est jeune, c'est pas facile de pourvoir à ses études. Donc, mais c'était vraiment, premièrement, comme ma raison d'être, dont je devais faire le deuil. Et puis voilà, en fait, ça s'est amorcé assez en douceur, ce tournant. Et je me suis dit que finalement, tout ça n'était pas... j'avais pas fait tous ces efforts en vain. C'était que, en fait, ils m'ont permis d'arriver là où je suis maintenant.
Donc, aucune sensation de cruauté vis-à-vis de la parole de l'agent ou vis-à-vis de la vie qui ne vous a pas permis de devenir chanteuse ?
Non, c'est vrai que sur le coup, je l'ai mal reçu parce que c'était vraiment comme si vraiment ce qui me servait de moteur, comme si je devais faire une croix sur ce qui me servait de moteur dans la vie. Donc, ça a été plutôt un peu difficile. Mais après, j'ai un peu une face, un petit peu comme une maxime. Et donc, je dirais, ce qui doit être sera. Et c'est que, voilà, quelque chose qui me semblait effectivement, le ciel me tombait sur la tête, en fait, c'est qu'il devait y avoir autre chose qui devait m'attendre. Quelque chose qui était pour lequel j'étais plus faite. Voilà.
Avant de continuer sur votre métier, quelle est votre définition d'un métier formidable, Karine ?
Ah, un métier formidable. C'est celui dans lequel on trouve de la joie. Mais la joie, pas le bonheur, vraiment la joie, quelque chose de très intérieur. Quelque chose qui enrichit dans le sens intellectuel, émotionnel, relationnel. Parce que moi, j'aime travailler en équipe aussi. Et voilà, il y a une synergie du travail de groupe. Aller au travail le matin en étant heureux de s'y rendre, c'est... voilà, pour moi, c'est une chose essentielle. Et je sais que c'est une grande chance, voilà, je le mesure, que c'est une grande chance de faire ce métier dans ce si beau cadre aussi, qui est l'Opéra de Montpellier. Voilà, donc j'estime que je suis très chanceuse.
C'est le moment de la pause musicale, Karine. Vous avez choisi de faire entendre « Honor virtus et potestas » par l'ensemble Organum. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit mot avant le lancement ?
Alors, l'ensemble Organum est dirigé par Marcel Pérez et je les suis depuis quasiment le début de l'existence de cet ensemble. Je crois qu'il a été créé en 82, donc moi j'étais encore un peu petite, mais vers 15 ans j'ai commencé à connaître leur travail. Et bon, c'était à l'époque, dans les années 80, où on ressortait des répertoires baroques et bien sûr antérieurs. Comme ce qui est le travail d'Organum. Marcel Pérez s'est beaucoup intéressé vraiment à la musique médiévale. Et à l'époque, voilà, autour du schisme d'Orient, donc à tout, voilà, aux côtés, c'était, à la base c'était du répertoire religieux principalement. Et voilà, et à la porosité entre l'Orient et l'Occident, puisque l'Église chrétienne était à cette époque byzantine et d'Orient. Donc voilà, j'étais très intéressée par ce croisement Orient et Occident, et ce voyage dans le temps et dans l'espace.
Et donc, écoutons un peu de ce voyage dans le temps et dans l'espace.
Thank you.
Vous êtes sur Radio FM+, Karine Joly, directrice de production à l'Opéra et Orchestre de Montpellier, est au micro du fil du fer. Qu'est-ce que, à vos yeux, un travail bien fait, Karine, dans votre partie, au sein de l'ONM?
Un travail bien fait. Alors, c'est déjà donner la possibilité à l'ensemble des équipes de travailler dans des conditions favorables, puisque justement, voilà, ce que je disais, beaucoup de choses partent de la direction de la production pour se diffuser sur tous les départements. Donc il y a, on va dire, en première ligne, il y a toute la technique, tous les techniciens et la régie, puisque c'est vraiment l'élaboration des spectacles, c'est vraiment eux qui sont en première ligne. Et puis bien sûr à tous les départements, la communication, les départements, l'orchestre, opéra junior, le développement culturel et la comptabilité, l'administration, les ressources humaines. C'est vraiment faire en sorte que tous les rouages soient les plus huilés possibles. Il y a souvent des petits grains de sable qui s'y glissent, mais voilà, c'est de faire en sorte que chacun puisse travailler tous vraiment en chaîne, tous, parce que c'est vraiment un travail d'équipe, et que les conditions soient le plus favorable pour tous. C'est également que les équipes de réalisation, donc metteurs en scène, décorateurs, costumiers, éclairagistes, trouvent à l'Opéra Orchestre de Montpellier des conditions satisfaisantes de travail et qu'une fois le spectacle créé, qu'ils soient satisfaits de du rendu, du travail de toutes les équipes. Et puis en finalité, c'est que les spectateurs, le public présent soit heureux, enthousiaste, ou voire plus de ce qu'il aura été amené à vivre à l'Opéra.
Travailler à l'ONM en tant que directrice de production demande-t-il de la disponibilité ainsi que certaines qualités spécifiques? Autrement dit, à quoi faut-il être prêt ou prête si des auditeurs et auditrices souhaitent, à vos écoutes, en atteindre cette fonction? Connaître le répertoire, par exemple?
Alors, on peut être directeur ou directrice de production sans avoir fait de musique ou de chant ou de connaître le répertoire, mais c'est vrai que c'est un plus, quand même, indéniablement. D'avoir fait du chant aussi, ça aide à connaître le répertoire, ça aide aussi à comprendre un peu ce qu'un chanteur peut vivre. Ça, c'est pour le côté, on va dire, pratique musicale ou de chant. Après, ce dont il faut faire preuve, de disponibilité, parce que comme on s'en doute, voilà, les spectacles ont lieu le soir, le week-end, les répétitions également, ça vous ne le voyez pas, mais on répète aussi le soir, les services ont lieu en général après-midi et soir. Donc ça, c'est sûr que ça demande de la disponibilité. Après, c'est vrai que même aussi, quand on peut être, on va dire qu'il faut être disponible, même à la maison, il peut y avoir, encore un exemple d'hier, la costumière de La Force du Destin devait arriver. Hier, nous étions dimanche, et son vol a été rerouté vers Marseille alors qu'elle devait arriver à Montpellier. Donc voilà, il faut être disponible pour joindre les uns et les autres, pour organiser les arrivées. Voilà, des petites fautes d'astreinte un petit peu. Voilà, quand on sait qu'il y a des événements qui peuvent intervenir. Donc de la disponibilité, mais après, c'est vrai que c'est comme ça, métier passion, ça. Oui, ça prend de la place. C'est vrai que des fois, ma fille me dit « Mais maman, change de métier », parce que c'est vrai qu'elle me voit même à la maison, au téléphone, écrire des messages. Oui, mais bon, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui porte, qui est une passion, et je ne me vois pas ne pas répondre. Voilà, quand il y a des impératifs, il faut être là. Voilà, c'est comme ça. Ça fait partie du métier. Mais ça porte en même temps que c'est une contrainte. C'est les deux à la fois.
Ah. C'est quelque chose qui me fascine quand j'entends des personnes parler de leur métier et dire « ça me porte ». Qu'est-ce que ça veut dire « ça me porte » et où on va?
Ah, Ben, ça rejoint un petit peu la notion de joie dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire faire en sorte que les artistes, enfin là je reprends l'exemple d'hier, que les artistes se sentent bien accueillis, qu'on est là pour leur projet, mais pour faire partie de leur projet, là, le temps qu'on est là pour réaliser leur opéra ou leur concert. Et du coup, c'est quelque chose qui se fait vraiment spontanément. Et l'objectif, ce qu'ils portent, bah, c'est de réaliser en commun, de faire, de sortir cet objet unique, cette unité qui est le rassemblement du travail de tous les maillons de la chaîne que constituent toutes les équipes. Ça, c'est assez magique quand même. Parce qu'on a des moments où on a des difficultés techniques, budgétaires, artistiques, où des fois on se dit qu'on passe pas loin d'une catastrophe, et puis il y a la magie qui opère. Voilà, du tout se faire ensemble, et voilà, le rideau se lève, et le public est là, et voilà, et ça se réalise.
Alors parlons encore de la magie et de ce qui permet la magie, c'est-à-dire des expériences concrètes. Si par exemple vous aviez un petit ou une petite troisième qui venait pour faire un stage auprès de vous, qu'est-ce qu'elle verrait ? Une journée particulière ou par rapport à un événement musical, à l'opéra, à certains opéras que vous êtes en train de monter, qu'est-ce qu'elle verrait de votre vie professionnelle de 9h du matin à je ne sais quelle heure?
Alors les troisièmes sont limités, on ne peut pas leur faire faire trop d'heures. Mais justement, je peux vous en parler parce que j'ai accueilli ma première stagiaire de troisième cette année.
Ah, super.
Voilà, une jeune fille qui se destine à être vitrailliste. Mmh. Voilà, donc déjà elle s'est présentée à moi avec ce profil que voilà déjà je trouvais très étonnant et intéressant par rapport à voilà, c'est artistique également. Donc qu'est-ce que cette jeune femme a pu voir de toute la journée? Alors elle est tombée dans une semaine qui était intense puisque nous avions la 9e symphonie de Beethoven au Corum et Séisme qui était à l'Opéra Comédie. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Lionel, c'était donc un spectacle, on est plus sur de la performance. Puisque c'était un spectacle en immersion sur scène avec un dispositif vidéo, une scénographie particulière puisque c'était un cube dans lequel les quelques spectateurs pouvaient rentrer. C'était un spectacle très sensoriel. Voilà, donc en fait, elle a été au cœur. Là, c'est vrai que pour les troisièmes, ça dépend un petit peu la période de stage, elle a une forme différente en fonction de l'actualité et de ce qui se présente à l'opéra. Voilà, donc là, elle était vraiment bien tombée puisqu'elle a pu être au cœur du réacteur symphonique et scénique. Donc, elle m'a suivie sur toutes les répétitions auxquelles j'allais, aux réunions afférentes également. Voilà, elle a vu également différents départements. Je ne l'ai pas gardée juste sous cloche à la production, mais elle est allée un peu dans différents départements. C'était important pour moi de lui donner un aperçu un peu large de tous les métiers qui sont derrière les coulisses. Derrière les coulisses d'un opéra. Voilà, tout ce qu'on ne voit pas habituellement.
Vous avez parlé tout à l'heure de Valérie Chevalier, qui est donc directrice générale de l'Opéra et Orchestre National de Montpellier. Comment s'articule le couple directrice générale et directrice de production?
Alors, donc, moi, j'ai absolument aucune décision artistique. Ça, c'est vraiment les prérogatives exclusives de Valérie Chevalier, en tant que directrice générale et artistique. Après, on fait des auditions de chanteurs, où il y a parfois des concours de chant où elle me convie, où elle me missionne de sa part. Donc, parce qu'elle sait que on a une oreille qui est à peu près raccord, en général. On peut avoir des désaccords, mais on en parle. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment, quand une saison se construit, elle décide de des ouvrages qu'elle veut construire, qu'elle veut y inclure, des artistes qu'elle veut inviter, et après, en fait, elle me confie ça à moi de le mettre en place avec, bien sûr, toutes les équipes. Donc, voilà, c'est un petit peu, j'arrive en, bien sûr, en, après elle, le quotidien est très fluide. Je pense qu'on forme un bon tandem. Vous lui demanderez si vous l'avez au micro aussi. Mais
j'espère
je
bien.
Je pense qu'on forme un bon duo. On est assez complices. Je pense que c'est important aussi de... c'est un vrai atout, parce que c'est vrai qu'on passe aussi beaucoup de temps ensemble. On partage aussi beaucoup. On peut échanger sur nos sensibilités, sur les répertoires, sur les artistes. Donc... oui, on passe des bons moments ensemble aussi.
C'est tant mieux. On entend parfois des relations plus difficiles entre patron et puis salarié, etc. Donc, je suis très heureux d'entendre que ça marche nickel. Vous avez parlé de vos parents. Donc, l'égyptologie, ça a été un niet parental, il semblerait. Et ensuite,
donc, comme je vous le disais, on écoutait de la musique. C'était ma mère qui écoutait plutôt de la musique classique à la maison. Quand je leur ai dit que je voulais faire du chant, alors là, ça a été pareil que rebelote, comme pour l'égyptologie. Ce n'est pas un métier. D'accord, tu peux poursuivre la musique, mais il faut un diplôme. C'est comme ça que j'ai bifurqué sur le cursus musicologie. Voilà, donc c'est vrai que du coup ma mère m'avait communiqué un petit peu elle m'a donné le virus de la musique classique, mais là elle se demandait peut-être si elle n'était pas allée trop loin parce que le fait que je veuille en faire un métier, c'était un peu trop pour eux quand même, voilà. Mais là j'ai tenu bon, voilà, et j'ai bien fait.
Vous avez durant une de notre conversation téléphonique pour préparer cette émission, vous m'avez parlé de l'empathie et que vous étiez donc une personne au sens professionnel et humain, mais parlons du professionnel, empathique. Qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que cela apporte dans votre fonction ?
Oui, alors comme je vous disais, Lionel, précédemment, c'est vrai que... Là, j'ai eu 50 ans il y a 3 ans. Et depuis lors, des traits de caractère que j'avais, qui pouvaient me sembler être des faiblesses ou des fragilités, se sont, comme par magie, assemblés en prenant du sens. Et à ce moment-là, je leur ai trouvé... J'ai trouvé que c'était plus qu'être des fragilités, que c'était des atouts. L'empathie, alors en fait, c'est une façon d'être. C'est pas. Je pense que j'ai longtemps essayé d'avoir un côté un peu étanche, en me disant que ça, c'était des traits de caractère qui étaient plutôt dévolus au domaine privé, amical, familial, enfin vraiment privé. Et que ça n'avait pas à intervenir dans le domaine professionnel, où souvent il faut être rigoureux, ferme, sec, surtout quand on a un poste d'encadrant. Et en fait, ça me coûtait parce que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de... C'est vraiment une caractéristique, enfin un trait de caractère important chez moi. Et je pense que ça... Déjà, ça crée une synergie avec la personne que j'ai en face. Je vois, par exemple, quand je reçois des artistes qui ont des difficultés. Alors, ça peut être une négociation, ça peut être une condition de travail. Enfin, voilà. Mais plus particulièrement quand il y a une difficulté, je pense que ça facilite le fait d'entrer en contact avec la personne en face, qui se sent écoutée vraiment. Et ça crée une possibilité de dialogue, d'échange véritable. Voilà, donc déjà, je pense que ça met l'interlocuteur en face, déjà dans de meilleures dispositions. Et voilà, je pense que ça rend les échanges professionnels aussi plus... Parce que les artistes avec lesquels je travaille la plupart du temps, même mes collègues qui ne sont pas forcément artistes, qui n'ont pas un poste artistique, mais je pense que ça crée un dialogue optimal même pour le travail. Voilà.
Est-ce que votre métier, pour la dernière minute et demie qui nous reste, est-ce que votre merci. Votre parcours, votre métier vous ont permis de vous découvrir ?
Eh bien, effectivement, ça construit un être humain. Voilà, à partir du moment où un être humain se réalise positivement dans son travail, ça lui permet de se construire. L'expérience le forge, le consolide. Et effectivement, moi, ça m'a donné petit à petit, ça me donne petit à petit confiance en moi. Voilà.
Formidable.
Voilà.
Je vous remercie. Vous venez d'écouter Le Fil du Fer de Karine Joly. Merci à Yann pour la technique. Merci à Federica Forte ainsi qu'à l'Opéra et Orchestre National de Montpellier pour l'accueil. À bientôt.